Nous sommes en train de faire une série d'études sur les diverses positions qu'on a en Jésus. On en a vu quelques-unes, puis il en reste encore quelques-unes à voir. Pour ceux qui n'ont manqué, mais vous pouvez aller sur le site Internet, ils sont toutes là, ou vous pouvez demander à quelqu'un qui a l'Internet de vous les mettre sur un CD. C'est tous des fichiers en MP3 que vous pouvez écouter dans votre laptop, dans votre ordinateur, ou dans un baladeur MP3. C'est tout. Je ne sais pas pour vous comment se trouvait ça. Pour moi, je trouve ça édifiant de savoir chacune des positions dont je bénéficie après que je sois né de nouveau. On a tout reçu, tout le monde qui sont nés de nouveau, on a reçu plein de nouveaux statuts. Dieu nous voit, puis il nous appelle comme ça, puis il nous appelle comme ça, puis il nous appelle comme ça. Puis c'est le titre qu'il nous donne, ça l'inclut des avantages. Puis en même temps, ça l'inclut des responsabilités. Parce que c'est pas juste donne, donne, donne. Le Seigneur s'attend de nous à cause qu'on est devenu telle chose. Mais il y a une responsabilité dont il s'attend à ce qu'on soit là pour, des fois, c'est pour le mettre en pratique, ou d'en parler, ou de faire des efforts. Parce que notre vie chrétienne, c'est pas une vie de paresse. Qui pense que la Bible nous demande d'être paresseux? Il n'y a aucune place dans la Bible, c'est même le contraire, ça nous dit de considérer la fourmi. Il dit, considère la fourmi paresseuse. Elle n'a ni chef, ni guide, puis elle sort en rang pour aller faire son ouvrage. Nous, on sort pas à l'aveuglette sans chef ni guide. On a le Seigneur Jésus-Christ pour nous guider. Puis le peuple de Dieu ne sera pas supposé de courir comme des poules pas de tête. Oui, on n'est pas supposé de courir comme ça, parce qu'on a une tête, c'est Jésus qui est la tête, puis il donne ses instructions à son Église. Amen. On sait où est-ce qu'on s'en va, puis on sait ce qui nous sommes, puis on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Merci Seigneur. J'ai pas entendu un gros amen à la fin. Une des positions qu'on regarde aujourd'hui, c'est une des positions et non la moindre, parce qu'elles sont toutes importantes, sont toutes bonnes, puis c'est tout beau de le savoir. Puis ça nous, on réalise, on prend conscience de nos positions que Jésus ou Dieu le Père nous a données. Mais c'est tout grâce à Jésus. Nous sommes grâce au Christ devenus des délivrés. Merci Seigneur de cette déclaration, puis on va comprendre un peu plus loin avec les versets. Il y a beaucoup de versets, puis on va comprendre c'est quoi le travail de Dieu dans nos vies pour nous avoir délivrés et pour nous délivrer. Connaissez-vous les délivrances que le Seigneur opère? Parce que la Bible en parle. Tu regardes Jésus quand il travaillait sur cette terre, puis il était en face aux gens, puis des fois c'était des guérisons, des fois c'était des délivrances, des fois c'était des enseignements pour leur dire quoi faire, quoi pas faire. Mais le Seigneur, il est venu dans une mission justement pour nous enseigner ces choses. Les connaître, ces délivrances, c'est une chose, mais expérimentez-vous ces libérations. C'est pas normal que la vie d'une personne, une fois qu'elle est née de nouveau, qu'elle reste comme qu'elle était. C'est impossible. Si une personne est restée comme qu'elle était, c'est soit qu'elle n'est pas née de nouveau, ou soit qu'elle a mis en oubli déjà parce qu'elle est trop attirée par le reste des convoitises de ce monde. Elle pense qu'aux choses de la terre au lieu de penser à ce que Dieu pourra faire comme changement. Parce que tu peux marcher dans des délivrances du Seigneur pendant un bout, puis succomber dans des choses, puis là, rétrograder, puis devenir tiède, puis peut-être froid, puis peut-être même abandonné. Il y en a qui ont passé par là, je le souhaite pas à personne, parce que la Bible a dit, c'est une condition pire que la première. Ça aurait été mieux qu'ils connaissent jamais que d'abandonner après avoir connu. Imaginez, tu arrives l'autre bord, tu as tout perdu parce que tu as abandonné le Seigneur, puis là, il te montre qu'il t'avait déjà tout donné, c'est toi que par les petits plaisirs passagers qu'on s'est laissé aller, par notre négligence ou par notre paresse, puis on laisse tomber, toutes les promesses de Dieu nous coulent entre les mains, puis on perd tout. C'est un non-sens de s'en aller en ce chemin-là. Puis si vous connaissez des gens qui ont abandonné, la Bible nous le dit dans Jacques, si un frère amène un frère de la voie où c'est égaré, il sauve un homme de la mort, puis il couvre une multitude de péchés. Donc, c'est possible de ramener quelqu'un. Fait que tout le monde, comme l'enfant prodige, il était perdu, puis il est retrouvé. C'est ça que son père a dit quand il était content de le revoir. Il était mort, maintenant il est revenu à la vie. C'est ça que ça dit. Dieu, il y a une chose qu'on doit savoir là pour nous aider dans notre vie chrétienne. Parce que des fois, on pense que Dieu, il sait pas que ce qu'on vit. Il sait pas que dans quoi qu'on est pogné, ou qu'on a des problèmes, ou on a des maladies, on a des souffrances, on a des difficultés dans notre vie, puis on pense que Dieu nous a abandonnés, ou Dieu il sait pas, ou Dieu s'en occupe pas. Mais ça, faut chasser ça, cette idée-là. Faut croire que Dieu prend soin de ses enfants. Non seulement il veut en prendre soin, mais il en prend soin. Sauf que les choses arrivent comme lui le décide. C'est juste ça la différence. On n'a pas tout instantanément, parce qu'on est à l'heure de l'instantané. Tu mets une pièce dans la machine, tu payes sur le piton, puis le gâteau, il sort. Mais avec Dieu, c'est pas de même. Il y a du temps, il y a un processus, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Tout concourt à notre bien, il faut y faire confiance au Seigneur. Dieu, il a de la compassion envers ses créatures, puis particulièrement envers ses enfants. Dieu veut pas nous voir souffrir, puis qu'il nous regarde, puis il trouve ça drôle. Pas du tout. Dieu, ça le fait souffrir quand une de ses brebis souffre, quand un de ses enfants souffre. Puis il veut rendre libres ceux qui souffrent. Il veut nous délivrer de nos souffrances. Délivrer, c'est nous en affranchir, nous libérer, nous sortir de là. Il va même dans le sens délivrer, ça veut dire affranchir dans le sens racheter. Il va même payer ce que ça coûte pour que ça, on puisse en être délivré. Dieu, il pense comme ça. Il aime intervenir dans la vie des gens pour les secourir. Dieu, il est proche. Quand on souffre, il est là puis il nous voit. Puis il sait qu'est-ce qu'on passe à travers. Il regardait son fils souffrir, puis il était là, puis il l'a sorti de certaines souffrances, mais pas de toutes. Il fallait qu'il meure à la croix. Mais dans l'histoire du peuple juif, tu vois un peu cette idée-là dans Actes 7, 34. Il est en train de raconter l'histoire du peuple juif, puis Moïse. Puis Dieu dit dans sa phrase, un verset dans l'Ancien Testament, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. » Dieu voit la souffrance de son peuple. Faites-vous partie de son peuple aujourd'hui? Bon, donc Dieu, il voit chaque fois que vous souffrez, il le voit. Que ce soit des souffrances émotionnelles, des souffrances dans tourmenté, que ça tourne pas rond, des mauvaises pensées, ça va mal, ou des souffrances physiques, ou des souffrances, des problèmes monétaires, des problèmes avec des gens qui nous entourent, ou le diable qui nous attaque, puis ça chante sur nous autres. Mais Dieu voit nos souffrances. Puis il dit au peuple d'Israël, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. » Dieu, il entend nos gémissements. Quand on se tape sur un doigt et on dit « Ouch! » Il l'a entendu. Chaque fois « Ah, j'ai mal dans... » Il l'entend. Même si on dit pas pour se plaindre, mais c'est un réflexe. Quand tu as mal, tu dis quelque chose. C'est un gémissement, ça. Chaque fois que tu as mal à quelque part, puis il sait, il est là, il les entend, puis il n'est pas indifférent. Il veut intervenir. Puis là, il dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, je suis descendu pour le délivrer. » C'est ça le cœur de Dieu, être quelqu'un qui va au secours des autres pour les délivrer, les sortir de leur situation. Puis c'est ce qu'il a fait quand il a vu le peuple d'Israël en Égypte en train de souffrir. Il est en train de préparer quelque chose pour envoyer quelqu'un pour les sortir de là. Puis là, il a dit à Moïse, « Va, je t'enverrai en Égypte. » Le Seigneur, il avait choisi Moïse pour délivrer son peuple. Ça arrive des fois que le Seigneur se sert de la main des hommes pour nous aider. L'aide n'est pas toujours juste l'aide de Dieu. C'est comme l'histoire du gars qui est en train de se nayer, puis il y a un bateau qui passe, puis là, Dieu, il n'y a pas Dieu, il y a quelqu'un qui dit « Hey, embarque dans le bateau! » Puis là, il dit « Non, j'attends que Dieu me délivre lui-même. » Puis là, un deuxième bateau, un troisième bateau passe, puis il a refusé l'aide des gens qui étaient autour. Puis là, après ça, il meurt nayé. Puis il dit à Dieu, rendu l'autre bord, « Tu m'as pas aidé dans ma souffrance. » Il dit « Je t'ai aidé, je t'ai envoyé trois personnes pour aller te chercher. » T'es refusé. Dieu, ça sert des gens autour aussi pour nous aider. Tu reçois de l'aide dans un déménagement. Qui vous pensez qui a mis à cœur au monde d'y aller? C'est Dieu. T'es en train de te chercher un job, il y a quelqu'un qui te donne une suggestion, tu t'en vas quelque part, t'as la job. Mais Dieu t'a aidé par l'entremise d'un autre. Dieu, il agit à travers les autres. C'est Dieu qui agit. Puis quand Moïse est envoyé pour aller sortir le peuple d'Israël, c'est Dieu qui envoyait Moïse. Mais ils n'ont pas compris. Parce que dans Actes 7:25, là, juste un petit peu avant, ils ne pensaient pas que ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Dieu avait choisi Moïse, puis avait envoyé de l'aide pour les sortir avec tout ce qu'il fallait. La puissance de Dieu est envoyée. Par la suite, là, ils ont sorti. Mais sur le coup, ils ne comprenaient pas, ça prenait encore une autre intervention de Dieu pour envoyer Moïse une deuxième fois. Puis avec l'aide de Dieu, ils ont finalement sorti. Mais ce que je veux en venir, c'est comment est-ce que Dieu il est patient, puis qu'il est persévérant à vouloir t'aider. Puis qu'il relance son aide, puis il rassaye une deuxième fois, puis souvent on ne l'avouait pas, la porte de sortie. On l'a dit tantôt, il dit avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir, pour qu'on puisse la supporter, mais on ne l'avouait pas tout le temps sur le coup. Mais Dieu est prêt à nous délivrer, même si on ne voit pas tout le temps l'opportunité. Il est important de comprendre ce que Dieu nous offre comme porte de sortie, sinon on va rester dedans, dans notre problème. Mais Dieu nous en a déjà donné un paquet de délivrance. Même si on s'en rend pas compte, même si on les aurait oubliés, Dieu a travaillé dans nos vies depuis qu'on est né de nouveau. Puis même avant d'être chrétien, il travaillait déjà pour nous préparer à ce qu'on vienne à lui. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il nous a donné un super de beau verset pour nous donner cette image-là du travail qu'il voulait faire dans nos vies. Dans un message prophétique, dans un verset d'Isaïe, puis il nous annonçait dans ce verset-là qu'il y aura un chemin fait par l'Éternel que seuls les délivrés y marcheraient. Je vous parle de délivrance, là. Puis dans ce verset-là, ça va le dire, il y a juste ceux qui sont délivrés qui vont y marcher dans ce chemin-là. C'est ce chemin-là, en fin de compte, je vous le dis tout de suite, c'est Jésus. Dans Isaïe 35, les versets 8 à 10, ça c'est une prophétie qui annonçait que le chemin de Jésus qui sera ouvert à tout le monde qui sera appelé, puis qui marcherait par la foi, qui rentrerait par Jésus pour l'obtenir. Parce qu'il y a une porte pour entrer dans ce chemin-là. Cette porte-là, c'est Jésus. Puis là, il dit, il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour ceux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul n'y se rencontrera. Les délivrés y marcheront. Quelle belle route! Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Voyez-vous ce qui se posait à se passer dans cette route-là, cette route merveilleuse, cette route qui mène vers Sion, dont les rachetés de l'Éternel, les délivrés, ils marcheront. C'est en train de nous prophétiser qu'il y aura des gens qui seront affranchis de quelque chose. Être un délivré, c'est le mot affranchi. Tu es rendu libre. Quand tu es un affranchi, c'est comme si tu étais un esclave, puis tu avais besoin d'être affranchi, il a fallu que quelqu'un paye ta caution pour devenir libre. Puis c'est ça le mot qu'il y a là pour les délivrés, ils marcheront. Des affranchis par le Seigneur, dont le Seigneur paiera ce que ça coûte pour que ces gens-là puissent sortir de leur chaîne, de leurs liens, de leur servitude, de leur esclavage, de leur prison. Puis là, il les emmène dans son chemin. Puis là, c'est un chemin de guérison, de restauration, puis un chemin de joie, d'un chemin de bonheur, un chemin où on sera heureux. Il n'a pas dit que tout sera parfait, que tout ira super bien, mais on s'en va vers la cité éternelle, on est en route vers la ville sainte, puis là, il y a de quoi se réjouir. C'est ça qui est le chemin de l'éternel. Jésus l'a dit, c'est pas pour rien que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu n'as pas le choix de passer par Jésus qui est la porte, puis tu n'as pas le choix de passer par la parole de Jésus qui est le chemin. Amen. C'est Jésus qui nous l'a dit qu'il était le chemin. Puis c'est lui qui avait l'onction pour ouvrir les portes, pour qu'on puisse pénétrer dans ce chemin-là. Il n'y avait pas juste la porte qui devait être ouverte. Ça, il l'a ouvert, la porte. L'accès dans le lieu très saint, quand le voile a déchiré, quand Jésus a expiré, ça rouvrait l'accès qu'on puisse rentrer. Mais on n'était pas encore rentré automatiquement. Fallait être libéré de nos chaînes, de nos liens, de notre esclavage. Il fallait qu'il nous affranchisse, qu'il nous délivre de tout ce qui était collé sur nous, qui nous empêchait d'entrer. C'est ça que Jésus a fait. Puis il nous l'a annoncé d'avance qu'il avait cette onction-là pour le faire. Dans Luc 4, 18, Jésus a dit à ses disciples, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Cette onction-là, cette huile de puissance qu'il a reçue, une onction qui vient de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, était sur Jésus dans un but précis. Il était oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On voit que là, il veut s'occuper des souffrances dans l'âme de ces délivrés, c'est comment est-ce qu'on dit ça, les ceux qui ont bénéficié d'être délivrés, des affranchis. Tous ceux qui ont été affranchis, qui ont franchi la porte, pouvaient commencer à recevoir des guérisons de ton cœur qui est brisé. Puis en plus, ils proclament aux captifs la délivrance. Ça veut dire, quand tu arrives à Jésus, il te regarde, tu es enchaîné par tes péchés, par les conséquences de tes péchés, la malédiction de la loi. Tout est sur toi, puis tu as gardé bien captif dans le péché, puis dans le monde. Puis quand tu arrives à Jésus, puis tu lui dis que tu demandes pardon, puis que tu veux qu'il te pardonne, puis que tu veux être délivré, il proclame sur toi la délivrance. Il dit pas dans le nom de Jésus, c'est Jésus qui parle. Il dit, tu es libre. C'est ça qu'il dit. Tu es libre. Toutes tes chaînes sont brisées. Tes liens sont rompus. Tes fardeaux tombent à terre. Tu arrives à Jésus libre. Là, tu rentres dans la porte. Parce que la porte est bien étroite, la porte. Fallait que tu te débarrasses de tout pour pouvoir passer. Là, tu peux rentrer parce qu'il t'a proclamé la délivrance. Il a dit sur toi, tu es libre. Tu es un affranchi. Tu es pardonné. C'est ça qu'il disait aux gens. Il dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche? Mais il disait, tes péchés sont pardonnés. C'était aussi facile. Il y a juste à le prononcer. Il avait l'onction pour le faire. Il avait le droit de le faire à cause qu'il était pour payer pour la dette des péchés. À cause de lui, on peut recevoir une parole qui vient de lui puis qui nous rend libres. Ça nous permet de naître de nouveau. C'est là que ça commence, ta vie de changement, de transformation. Quand tu nais de nouveau, t'es déjà déclaré un délivré. T'es délivré, tes chaînes sont brisées. Il a tout fait tomber ce qui t'empêchait d'entrer, t'es maintenant entré dans la porte. T'es passé par Jésus, t'es déjà les deux pieds dans le chemin. De quel chemin on parle? Mais du chemin prophétisé par Isaïe. Il y aura un chemin frayé. Ça, là, quand c'est frayé, un chemin, c'est parce qu'il est déjà travaillé, le chemin. Il est déjà préparé. Jean-Baptiste a passé avant, justement, pour préparer le chemin du Seigneur, d'aplanir le sentier, que ça soit plus facile de partir. C'est ce qu'il a fait. Il a fait un job de bulldozer, Jean-Baptiste. C'était sa mission, de préparer le chemin. Il dit d'aplatir les buts, puis de relever ce qui est creux. C'était pour égaler le terrain, pour préparer une route pour notre Dieu. Il préparait le chemin au Seigneur, puis ça nous a aidés à croire. Mais le monde, surtout le monde dans ce temps-là, ça les amenait au Seigneur. Même les disciples, il faut comprendre ça, parce que je trouve ça triste en même temps, mais si on arrêtait là, on n'aurait pas fait mieux. Les disciples de Jésus n'avaient pas compris de quelle délivrance Jésus était venu accomplir. Dans Luc 24-21, il nous montre juste une petite scène, je vous montre ça rapidement. Quand les disciples d'Emmaüs s'en retournaient, puis là, ils se plaignaient à propos de Jésus. Bon, puis là, il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Puis là, il dit, les femmes ont dit qu'ils l'ont vu, mais nous autres, on ne l'a pas vu. Si tu regardes le reste du texte, là, il était comme découragé, puis il pensait que Jésus avait manqué à sa mission en mourant sur la croix. Il n'avait pas compris de quelle délivrance. Il dit, on pensait qu'il nous délivrait des Romains, parce que c'était notre souffrance. Mais Jésus s'est occupé d'un problème beaucoup plus grave que les Romains. Les Romains pouvaient lui imposer une petite pression terrestre, mais nos péchés, il fallait que quelqu'un s'en occupe, c'est Jésus qui s'en est occupé. Puis ça, c'était bien plus grave comme problème. Puis c'était le problème qui nous ouvrait la porte. Une fois que tu règles ce problème-là, la porte est ouverte, puis que tu peux rentrer dans le chemin. Puis c'est ce chemin-là que Jésus est venu s'occuper. C'est le chemin le plus important. Même si ça a pris du temps aux disciples de le comprendre, finalement, ils l'ont compris. Puis là, après ça, ils étaient des témoins de ce qu'ils avaient vu et entendu. Puis là, ils s'en rappelaient. Puis c'est comme si les lumières s'allumaient par après. Puis ils ont écrit des écrits. On a encore ces lettres-là aujourd'hui. Puis ça nous édifie. Merci Seigneur qu'il y avait du monde là qui ont compris, puis qu'on l'ait par écrit. Sinon, on n'aurait pas pu le connaître nous-mêmes. Grâce à la mort de Jésus, il y a plusieurs chaînes dont nous avons déjà été délivrés. À cause que Jésus a tout payé, il y a beaucoup de choses qui sont déjà accomplies dans notre vie. On est déjà des délivrés. C'est une nouvelle position qu'on a en Jésus. Lors de notre conversion, on reçoit des délivrances, puis dans notre cheminement, on a reçu aussi. Notre vie, elle a changé. Ça, c'est le travail de Dieu de changer nos vies. La première des plus grosses des délivrances qu'on a reçues, puis ça, on le dit, puis on le répète, puis on va le redire, puis on va le répéter, c'est la délivrance de nos péchés. Faut pas l'oublier. Dans Apocalypse 1:5, ça nous dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Considérez-vous déjà délivrés des péchés passés. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand tu viens à Jésus, tous tes péchés sont lavés, tu en es délivré. Surtout des conséquences aussi, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait qu'on soit délivré à cette conséquence-là, parce qu'on a tout fait des péchés. Fait qu'on était déjà dans le chemin de la mort. Fait qu'il fallait qu'il paye la dette de mourir à la place de nous, les coupables. Puis là, en versant son sang, ça nous a permis d'être purifiés. Merci Seigneur pour son sang qui était versé. Fait qu'il y a jamais, faut jamais que dans notre vie chrétienne, on pense qu'on est sauvé par nos bonnes œuvres, ou on est sauvé par nos efforts, ou on est sauvé parce qu'on est des bonnes personnes. Pas du tout. Faut toujours confesser qu'on est sauvé par le sang de Jésus. C'est lui qui nous a permis d'entrer dans le chemin du salut, puis d'être en route vers la ville sainte. Merci Seigneur. Un autre point, ce qu'il nous a délivré, il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Dans Colossiens 1, 12 et 13, ça nous dit, rendez grâce au Père, remerciez Dieu. Dites merci, là, pour, il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, parce que pour nous, on est incapable d'en sortir. Il nous a rendu capable en payant la dette de nos péchés. Ça nous dit, il nous a rendu capable d'avoir l'héritage des saints dans la lumière. Puis il nous a rendu capable d'être délivré de la puissance des ténèbres. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que quand t'es pas chrétien, t'es pas enfant de Dieu, quand t'as pas été à Jésus, tout ton temps que tu vis sur cette terre, depuis que t'es au monde jusqu'au temps où t'arrives à Jésus, t'es sous l'emprise du diable. T'es dans le royaume des ténèbres. Tu es aveuglé par les ténèbres, tu es lié par les ténèbres, tu es mené par le prince de ce monde. Puis c'est lui qui mène les fils de la rébellion. Puis on était par nature, c'était naturel, on était par nature des enfants de colère comme les autres. Qui nous a sortis de ces ténèbres-là? Jésus. Quand tu vas à lui, puis t'es enchaîné, le diable, les démons tiennent, là. Puis il t'emmène dans le péché, il te trempe dans le péché continuellement. Puis là, il t'emmène, puis toi, tu forces, puis tu vas pareil à Jésus, même si on dirait que tout est contre toi, tes chums rient de toi, ta famille rit de toi, ta femme rit de toi, tu peux même perdre ta job. Il se passe plein d'affaires pour t'empêcher d'aller à Jésus, mais quand tu oses le faire, toutes ces chaînes-là, là, ils tombent. Les chaînes tombent, les liens sont rompus, puis là, il te prend, là, il te sort des ténèbres, du royaume des ténèbres, puis là, il te plante dans le royaume de la lumière. Tu es maintenant un héritier, puis toutes les promesses de Dieu sont maintenant pour toi. Merci, Seigneur. Puis là, tu t'en vas, puis tu marches en direction d'aller chercher ta récompense. Une récompense qu'on mérite absolument rien, parce qu'on est incapable. Tous les mérites vont à Jésus. Il dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables. Disons merci souvent au Seigneur de nous avoir sauvés. Merci Seigneur. Amen. Un autre passage dans le Nouveau Testament qui est super beau. C'est un passage de Paul dans 2 Timothée 3, 10 et 11, qui nous parle qu'avant Paul, il en a eu des souffrances. Il dit pas ça pour se plaindre, mais il a souffert. Hey, je sais pas, vous l'avez lu, le bout où il parle de ses souffrances, puis il parle qu'il a été lapidé. Trois fois, là, ils l'ont frappé de 39 coups de bâton. Il a été mis en prison. Il a eu de l'opposition, de la persécution. Ils ont tout fait pour y faire du trouble tout le long de sa vie. Il a même fait naufrage quand il était en mission. Il a fait des naufrages, puis toutes sortes de problèmes imaginables, par rapport à des souffrances physiques. Nous autres, t'as mal à la tête, tu prends deux aspirines, puis ça passe. Il n'avait pas d'aspirine dans ce temps-là. Ça priait de la foi à chaque fois. C'était pas facile, la vie. C'était dur, la vie, dans ce temps-là. Il n'y a pas de carte d'assurance maladie, puis le médecin que tu pouvais te réjouir de faire 12 heures à l'attente. Mais Paul, il a dit quelque chose qui est super. Pour toi, il parlait à Timothée. Tu vois, 2 Timothée 3, 10 et 11. Paul, il parle à Timothée, il dit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Parce que Paul, c'est un persévérant. C'est un gars qui fonçait et qui lâchait pas. Puis là, il rajoute aussi, « Tu as suivi de près mes persécutions, mes souffrances. » À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Peut-être des fois, on pense qu'en vie d'un chrétien, il ne peut pas avoir de souffrance. C'est faux. Paul, il dit, nomme-en une souffrance que je n'ai pas eue. C'est ça qu'il dit. Nomme-en une. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Puis pas rien qu'à une place. À Antioche, à Icone, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Il a supporté des pressions que peut-être qu'il y a d'autres personnes n'auraient jamais passé à travers. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Fait que Dieu a toujours gardé Paul dans ses souffrances, dans ses temps difficiles, dans ses pressions, dans ses persécutions, dans ses maladies, dans tout ce qu'il y a eu. Puis Dieu a toujours donné une porte de sortie parce qu'il rajoute « Et le Seigneur m'a délivré de tout. » On parle de délivrance, là. Où est-ce que Dieu nous délivre? Dieu l'a délivré de toutes ses souffrances. Quand il écrit cette lettre-là, il se sentait bien. Tous ses problèmes, c'était des histoires du passé. Dans ce temps-là, il faut être capable de dire, « Dieu me délivre de toutes mes souffrances. » Tout ce que vous avez souffert là, dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui vous a délivré de toutes vos souffrances. Puis si vous êtes encore en train de souffrir, sachez que Dieu a de la compassion pour vos souffrances, puis il veut vous en sortir. Il veut vous délivrer de vos souffrances. Merci en avance, Seigneur, pour les souffrances, les délivrances qui s'en viennent. Mais ça dit de rendre grâce en toute chose. Paul a aussi dit que le Seigneur l'a délivré de tous les mauvais plans des hommes afin qu'il puisse accomplir sa mission. Il dit ça dans 2 Timothée 4, 17. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. De qui est-ce qu'il parlait de ce lion-là qui est parmi les hommes? Parce que dans le contexte, il est en train de parler au verset 16, il parle de ses souffrances, puis il parle qu'il est en train de faire l'œuvre, puis qu'il y a des humains qui s'opposaient à son ministère. Puis Dieu l'a délivré, le rendu libre de tous les mauvais plans que les humains faisaient pour essayer de l'empêcher. Même à la fin de sa vie, dans les Actes, tu regardes son histoire, il est en direction, là, pour s'en aller à Rome, puis il s'est rendu jusqu'à Rome, mais comme prisonnier, pour être jugé par César. Puis à la fin de sa vie, ça dit que Dieu, il avait quand même, le fait qu'il soit prisonnier, il a quand même donné l'opportunité de pouvoir faire ce qu'il voulait, puis il pouvait prêcher à qui ce qu'il voulait, puis il n'y avait rien qui l'empêchait de faire quoi que ce soit. Il était délivré, même s'il était prisonnier, il était délivré même des chaînes qu'un prisonnier normal n'aurait pas à avoir, puis il pouvait accomplir sa mission de prêcher l'Évangile à tout le monde. À toute créature, ce gars-là, c'était pas un gars qui fuyait le monde qu'en regardant un de temps en temps pour l'évangéliser. S'il rentrait dans le tas, puis il évangélisait tout le monde, puis il allait faire toutes les portes, toutes les rues, tout partout, pour que tout le monde, ça dit, dans un an et demi, il avait évangélisé l'Asie au complet. Un an et demi. Ce gars-là, il évangélisait. Mais, hein? Il était zélé. Il avait la puissance de Dieu après lui, puis il lâchait pas. Merci Seigneur, là, j'ai donné ces points-là pour vous qu'on réalise que nous aussi, on participe aux délivrances que le Seigneur nous donne. Il nous a délivrés, peut-être pas des mêmes choses que Paul a eu, mais des guérisons, on en a eu, puis on a été délivrés de beaucoup de problèmes, puis on a aussi des problèmes qu'on a eu dans la vie par du monde, des personnes méchantes, puis le Seigneur nous délivre de tout. Il nous a déjà, on a déjà bénéficié de plein de délivrances, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Dieu veut en faire encore des délivrances dans nos vies. Quand tu te convertis, tu n'es pas tombé libre de tout. Tu commences une nouvelle vie, puis là, il y a un processus qui est commencé, puis tu en expérimentes des délivrances. C'est le Dieu des délivrances. On a le droit d'y croire qu'il y a des délivrances qui s'en viennent pour nos souffrances, parce que Dieu entend et voit nos gémissements. Nous avons encore d'autres victoires à aller chercher avec le Seigneur. Il faut continuer à espérer en son secours puis s'attendre à ce qu'il fasse de quoi dans nos vies. On a encore besoin du Seigneur pour des victoires contre le diable. Je suis pas fini. Même si on a été délivré et qu'on est sorti de son camp, il revient, lui, puis le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Il essaye d'attaquer encore après. Les démons sont là, c'est peut-être pas trop le diable lui-même en personne, mais les démons sont là et ils nous tentent à tomber dans des péchés pour nous capturer encore, pour qu'on soit encore enchaîné, puis qu'on rétrograde après ça dans notre vie chrétienne. Si on, il essaye de nous faire tomber. Dans 2 Timothée 4, 17. Non, excusez, dans Matthieu 6, 13. Pour nous parler qu'on va bénéficier encore des délivrances du Seigneur. Dans la prière du Notre Père. Jésus nous a enseigné à prier. Il nous dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire, on a encore besoin de l'aide du Seigneur pour être délivré du malin. Ça veut dire qu'on a le droit, on a accès à demander à Dieu de l'aide pour avoir des victoires, des délivrances du malin. Continuons à espérer que si tu es dans un moment où tu es tenté dans des choses, tu n'es pas obligé de tomber là-dedans. Tu peux demander de l'aide au Seigneur pour qu'il te délivre de toute forme de mal faite ou tentée ou produit ou de piège ou quoi que ce soit. Des ruses du diable, le mot ruse du diable, c'est des manigances, c'est des stratégies, le mot veut dire stratégie du diable, que le diable met en place autour de toi pour essayer de te faire tomber, puis tu as le droit de demander à Dieu de l'aide pour te sortir des stratégies du diable. Pour que tu sois victorieux dans ta vie, tu aies la victoire sur tes péchés. T'as été délivré, t'en as encore besoin de l'aide du Seigneur pour d'autres délivrances. Continue à t'accrocher à lui. Nous avons encore besoin du Seigneur pour des victoires contre le péché qui habite encore dans notre nature pécheresse. Ben, c'est pas toujours la faute du diable, nos péchés. Faut pas oublier que Paul le dit dans Romains 7, les versets 18. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, puis je fais le mal que je veux pas. On est encore pogné avec cette nature de péché-là, puis on a à combattre contre cela. Puis on va avoir à combattre jusqu'à quand? Tant qu'on va être encore les deux pieds sur la terre. Puis le verset 24, c'est lui le plus beau dans cette histoire-là. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Gloire soit rendue à Jésus. À cause de Jésus, tu peux être délivré. Apprends ça d'être chrétien, tu peux être délivré, parce que Paul il était déjà chrétien quand il a dit qu'il n'était pas capable de faire ce qu'il voulait. T'as cette nature-là, après, encore, là, après, t'es dedans, là. Elle est toujours attirée par ce que Dieu aime pas. Elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Puis là, Dieu te propose, si tu l'es un petit peu plus loin du verset 24, que tu marches par le Saint-Esprit, puis la puissance de Dieu. Puis ça, c'est grâce à Jésus qu'on l'a reçu, le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est en toi, puis qui fait mourir les actions de ton corps, puis te conduit vers la liberté. Il veut délivrer de toi-même. Merci Seigneur de ces délivrances-là, on prend tout ce qu'il y a. On les veut toutes. On a encore besoin du Seigneur pour des victoires dans nos épreuves. Parce que tu es un chrétien, il sait qu'il n'est pas éprouvé par quelque chose de temps en temps. Si vous n'avez pas d'épreuves, posez-vous des questions. Moi, j'en ai une couple. Dans 2 Pierre 2, 9, il nous dit, c'est un super de beau verset, ils sont tous beaux les versets. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais il sait délivrer les hommes pieux. Il sait délivrer de l'épreuve. Comme je disais au début, Dieu voit nos souffrances, il voit nos problèmes, puis ça y fait quelque chose, puis il veut intervenir, puis il sait comment faire pour te sortir de là. Il n'y a que lui qui peut te sortir de là. Oui, tu peux réussir à sortir de certains problèmes par toi-même. Mais apprends à te fier sur le Seigneur. Apprends à avoir confiance que Dieu a ta vie dans ses mains. Puis lui sait que c'est faire pour te sortir. Puis il sait sortir de l'épreuve les hommes pieux. C'est quoi ça des hommes pieux? C'est le monde qui s'accroche à lui, qui prie, qui cherche sa face, qui veulent son secours, puis qui le réclament, Dieu va agir. Amen. Nous avons encore aussi besoin du Seigneur pour des victoires contre les œuvres méchantes des personnes qui nous entourent. On n'a pas fini d'en avoir des épreuves. Le monde s'en va de plus en plus mal, puis les choses se mettent en place pour le contrôle mondial, puis la marque de la bête, etc. Il y en a qui pensent que c'est déjà passé. C'est pas passé, parce que la Bible nous dit que lorsque Jésus reviendra, c'est ceux qui sont punchés qui vont subir les fléaux du jugement de Dieu. Donc, ça doit arriver encore. C'est pas arrivé, c'est quelque chose qui va être là au temps du retour de Jésus. Puis il va y avoir des gens, l'histoire de la marque de la bête, puis tout ce qui va, on en parlera plus une autre fois. Dans 2 Timothée 4, 18, Paul le disait, que lui en vivait des problèmes avec certaines personnes dans ce verset-là. Puis il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, puis il me sauvera de toutes les méchantes personnes. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Fait que l'apôtre Paul confessait de sa bouche l'aide que le Seigneur t'a pour lui donner. Je crois qu'il se basait, mais il se basait sur des versets qui dit le Seigneur, il y a plein de versets qui sont des promesses du Seigneur, comme quoi qu'il veut intervenir, qu'il veut nous aider, puis tu le quittes. Fait que tu as le droit d'y croire, puis tu as le droit de le dire aux autres, qu'il y a des secours qui s'en viennent de la part de Dieu en ta faveur. Amen. Nous avons encore besoin du Seigneur pour des victoires afin de persévérer dans l'attente du retour de Jésus. Parce qu'il faut se rendre jusqu'au bout. Peu importe ce qui arrivera sur la terre, il faut persévérer dans la foi en Jésus. Puis on a besoin de l'aide du Seigneur pour passer à travers de ça. Puis il va le faire. Il dit dans un verset, il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Puis là, ça c'est important de comprendre que Dieu l'offre. Il offre des promesses pour nous dire qu'il va nous secourir. Dans 1 Thessaloniciens 1:10, ça nous dit, et pour attendre des cieux son Fils. On est en train d'attendre des cieux son Fils. Puis l'attente, des fois, est longue, puis il y a beaucoup d'obstacles dans l'attente. On est en train d'attendre des cieux son Fils qui est ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Parce qu'il y a de quoi de rough qui s'en vient. La colère de Dieu va déverser sur la terre. La Bible a dit l'accomplissement de la colère de Dieu va tomber sur le trône de la bête, puis tous ceux qui ont reçu la marque de la bête. Puis ça, c'est décrit en 7 coupes dans l'Apocalypse que Dieu va déverser les coupes sur le trône de la bête, puis sur ceux qui ont reçu la marque de la bête. Puis il va y avoir des souffrances terribles de jugement pour ceux qui sont sur la terre à ce moment-là, puis qui avaient reçu la marque de la bête. Les autres vont avoir été enlevés à 7e trompette avant les 7 coupes. Merci Seigneur. Mais on va être dans les airs avec le Seigneur, puis le Seigneur va déverser des jugements de colère sur la terre, à part de ce qu'il va avoir dans l'éternité. Mais on attend Jésus, puis il nous délivre de la colère à venir. C'est quelque chose à venir. Elle n'est pas encore arrivée à colère. Mais on a encore des délivrances qui vont venir du Seigneur, puis c'est le jour où il va venir nous chercher pour nous sortir d'ici. Merci, Seigneur. Seigneur, je te remercie de l'œuvre que tu fais en nous. Je te remercie de ton attention envers nous qui ne méritons rien, d'être sensible à nos souffrances, à nos problèmes. On veut tout te remettre entre tes mains, Seigneur. On veut te faire confiance dans nos vies. Tu es notre secours, c'est à toi qu'on veut regarder, puis on veut s'attendre de toi, Seigneur, que tu viennes nous délivrer des maux qu'on peut vivre encore aujourd'hui. Seigneur, merci d'avance pour tout ce que tu vas faire. Merci de tout ce que tu as fait, puis merci de tout ce que tu vas faire. On te fait confiance. Puis merci pour la foi que tu déposes dans le cœur de chacun pour s'accrocher à toi, puis de s'attendre sur toi. On remet nos ventres entre tes mains, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.